Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est prêt, il est fidèle au poste, c'est le bon docteur d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la remise en forme du docteur Jimmy... Pardon, cette émission lui sera utile, j'en suis certaine, mais elle s'adresse bien sûr à nous tous. Comment se remettre en mouvement sans trop souffrir, car on le sait, les confinements, le télétravail, bref, la situation que nous vivons depuis des mois n'a pas aidé notre musculature. Beaucoup de Français ont arrêté carrément le sport, alors on va se reprendre en main aujourd'hui, d'autant que dès demain, nous aurons un peu plus de liberté de mouvement. Et bien pour nous aider dans cette tâche, nous recevrons Vincent Martin, il est directeur sportif du Paris Country Club. Ensuite, comme tous les vendredis, nous allons prendre soin également de votre apparence avec la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Il va nous expliquer comment faire disparaître les cicatrices d'acné cet après-midi. Enfin, pour terminer cette semaine sur des chapeaux de roue, à la toute fin de cette émission, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle distillera ses meilleurs conseils à tous les timides qui n'osent jamais faire le premier pas.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Delphine.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, donc j'aimerais bien prendre des compléments alimentaires d'oméga 3, parce qu'il paraît que c'est bon pour le cœur. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis du docteur Mohamed sur le sujet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Au revoir, bon après-midi.
Bon, docteur Mohamed, reprenons peut-être la base. Hein. C'est quoi les oméga 3? On les trouve dans quel aliment avant de parler des compléments alimentaires déjà?
Alors, les oméga 3, ce sont des acides gras qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, mais que le corps ne peut pas synthétiser. Si vous devez en retenir seulement deux, je vous conseille de retenir l'EPA, donc EPA, et la DHA. C'est ceux sur lesquels ils font miser, puisqu'ils sont bons pour le fonctionnement du cerveau, le développement de la rétine. Et ce sera aussi bénéfique notamment pour notre santé mentale. Ça permettrait de réduire, au travers du régime méditerranéen, le risque de démence et de maladie d'Alzheimer. Alors, d'une façon générale, vous pouvez en trouver dans l'alimentation, donc dans les noix, dans les huiles comme l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de lin, mais aussi dans les protéines animales, notamment avec les poissons gras, le saumon, la sardine, le hareng, le thon, le maquereau. Tous les poissons
que
vous aimez, Mélanie,
vous savez, vous commencez à connaître mes goûts alimentaires, tout ce que je déteste. C'est parfait. Alors, Jimmy, est-ce qu'on en manque en général de ces oméga 3? Est-ce que c'est vraiment important de faire du coup une cure, ou est-ce qu'il faut quand même privilégier ceux qu'on trouve dans l'assiette que vous venez de citer?
Alors, plusieurs questions auxquelles je vais répondre,
oui,
évidemment.
Oui, j'aime bien poser plein de questions dans la question.
Alors, tout d'abord, oui, on en manque. On est à peine à 50% des apports quotidiens nécessaires. Donc, les Français sont carencés en oméga 3. Comment est-ce qu'on pourrait les prendre? Moi, je vous conseille plutôt au travers d'une alimentation équilibrée, puisque lorsque vous allez prendre des compléments alimentaires, vous allez cibler uniquement ces oméga 3. Et puis mettre de côté tout le reste qui serait aussi bon pour votre organisme.
Pas mieux manger, donc c'est pas
mieux manger. Il faut comprendre que l'alimentation, c'est prendre soin de sa santé. Et puis les oméga 3, si jamais vous voulez absolument en acheter, je vous conseille de prendre plutôt ceux d'origine végétale qui vont être peu contaminés par des polluants, puisque si vous prenez ceux d'origine animale, eh bien souvent le poisson a mangé des plus petits poissons qui à son tour a mangé des petits poissons.
D'accord.
Et donc en bout de chaîne alimentaire, vous allez les prendre et donc être un peu plus exposé, notamment au mercure ou d'autres toxiques. Donc quitte à en prendre, plutôt d'origine marine.
Très bien. Alors Delphine, elle souhaiterait savoir donc si faire une cure pour prendre soin de son cœur, c'est une bonne idée. Est-ce que ça fonctionne vraiment en prévention? Elle ne dit pas si elle a des problèmes de santé particuliers, mais je crois qu'il y a une étude récente qui dit que pour le cœur, finalement, ce n'est pas si intéressant
que
ça.
On dit que ces oméga 3 sont bons pour le fonctionnement du cœur. En revanche, une étude s'est intéressée à ceux qui vont prendre des compléments alimentaires à base d'oméga 3 uniquement. Est-ce qu'ils font moins d'infarctus que les autres? Alors, ils ont fait une étude, un groupe avec oméga 3, un groupe placebo chez des malades à haut risque de maladies cardiovasculaires qui avaient déjà fait un infarctus, qui avaient des problèmes de santé. Eh bien, au bout de quelques années, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun intérêt à prendre des oméga 3. Cette étude en contredit une autre qui disait que ça pouvait être bénéfique. Moi,
donc,
ce que je vous conseille,
ouais,
c'est une alimentation équilibrée plutôt que faire des cures comme ça à l'aveugle.
Bon, avec ça, au moins, on est bien. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur de ce vrai faux. Cette fois, c'est Alain qui nous l'a posé sur notre répondeur. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, l'autre jour, je regardais une série, il parlait de la méthode de Emlich pour sauver des gens, et je voulais savoir si ça existait vraiment, et surtout comment il fallait faire. Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Merci beaucoup Alain. Non seulement ça existe, mais Jimmy est là. Jimmy qui a une formation d'urgentiste, en plus ça tombe bien. Jimmy, la manœuvre Emlich, c'est quoi?
C'est une manœuvre d'urgence, il l'a dit, pour sauver des vies. Ça survient en cours d'un repas où vous allez avoir essentiellement un aliment qui va se coincer dans les voies respiratoires.
C'est anti-étouffement, quoi.
Exactement. Une voie anti-étouffement pour essayer de sortir l'objet qui obstrue les voies aériennes et qui conduit à l'étouffement et à l'arrêt cardio-respiratoire en l'absence de secours.
Alors, petite démonstration. Bon, à la radio, c'est toujours compliqué, mais est-ce que vous nous expliquez, en gros, parce que je crois qu'il faut commencer par des claques, hein, toujours
exactement,
dans le dos. Si
commence...
ça marche pas, on fait la manœuvre et on la fait comment ?
Tout d'abord, si la personne tousse, on respecte l'atout. On la laisse tranquille. L'atout est un mécanisme de protection pour expulser éventuellement le corps étranger. On met 5 grandes claques dans le dos, entre les deux omoplates, pour provoquer un mécanisme de toux. Et si ça ne marche pas, on se met à l'arrière de la personne et avec le poing fermé en s'aidant de l'autre main par-dessus, on essaie de comprimer au niveau de l'estomac, c'est-à-dire au-dessus du nombril, en faisant une compression en forme de virgule pour remonter vers le haut. On le fait 5 fois. Si ça ne marche pas, on repasse aux claques dans le dos. Et si jamais la victime tombe inconsciente, on ne la met pas en position latérale de sécurité, on la déshabille et on commence la réanimation en faisant le massage cardiaque. Évidemment, quand quelqu'un commence à s'étouffer, il faut être plusieurs. Un doit appeler le 15 pour...
Priorité.
Exactement. Priorité, c'est appeler le 15. On n'appelle pas, on n'attend pas, faites quelque chose et on fait les manœuvres de réanimation et formez-vous aux gestes de premier secours.
Merci beaucoup Jimmy pour ces précisions et ce message, on l'a compris, donc on appelle toujours le 15. Si vous aussi, comme Alain qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Vincent Martin. Vous êtes directeur sportif du Paris Country Club. Bonjour.
Bonjour.
Alors le bilan un petit peu d'abord des mois passés avec vous. Je pense que beaucoup de Français, même qui étaient sportifs à la base, hein, se sont déconditionnés. Vous craignez des dégâts de quel ordre sur la musculature des gens, des Français qui nous écoutent, qui ont été plus sédentaires ces derniers temps quand même, hein.
Il va y avoir une prise de poids, comme il y a eu au premier confinement, où il y avait en moyenne 3 kilos qui avaient été pris par les Français. Donc c'était une moyenne, hein. Il y en avait qui étaient beaucoup plus.
Donc ça va faire 3 plus 3, ou comme ils avaient un peu maigri pendant l'été en général?
Il y en a qui avaient commencé à maigrir, mais oui, c'est possible que ça fasse 3 plus 3 ou 3 plus 2, on verra les dégâts. Mais en moyenne, c'était 3 kilos sur le premier confinement. Là, il y aura à nouveau des dégâts, et surtout, il y aura des dégâts sur la composition corporelle.
Les gens ont vraiment arrêté le sport, beaucoup, ça on sait à peu près combien ont complètement arrêté toute activité physique.
Alors les sportifs qui étaient des sportifs occasionnels, très souvent ont arrêté le sport.
Ça c'est moi.
Voilà, et bon, les sportifs assidus et les sportifs qui pratiquaient la compétition ont essayé de poursuivre, mais même les sportifs qui faisaient de la compétition, en moyenne, ont réduit quasiment de 50% leur activité.
Et donc chez ces sportifs-là, est-ce que ça a changé quelque chose? Alors fibres musculaires, est-ce que... ça change quelque chose, le fait d'être un sportif de haut niveau, d'en faire régulièrement et puis tout d'un coup de s'arrêter ou d'en faire un peu moins?
Il y a un chamboulement, ne serait-ce que sur le métabolisme. Le métabolisme de base ne va plus brûler autant de calories qu'avant. Il y a une fonte musculaire. Donc, fonte musculaire, comme je vous l'ai dit, en fait, des fois, le poids ne bouge pas énormément, mais ça va être la composition corporelle qui va bouger, le pourcentage de masse graisseuse qui va monter, le pourcentage de muscles qui va légèrement réduire. Donc des fois, il y a des gens qui ont pris uniquement 2-3 kilos, mais finalement, ils ont perdu beaucoup de muscles, ils ont pris du gras. Et la composition corporelle, ce qui est le plus important chez un sportif, n'est plus du tout la même.
Et cette graisse corporelle, elle est prise souvent au niveau abdominal, hein, je crois, la graisse viscérale, et celle qu'on n'aime pas du tout, justement.
Voilà. Il y a la graisse, on va dire, qui est plutôt superficielle, et puis il y a la graisse viscérale, qui est la graisse la plus dangereuse, hein. C'est la graisse qui se retrouve près des organes, près du cœur, près du foie, qui peut causer des maladies
cardiaques.
Souvent
chez les hommes, hein, plutôt.
Oui, souvent chez les hommes, mais les femmes qui sont sédentaires peuvent être touchées aussi. Et ça peut donc causer des maladies cardiaques, du diabète. Donc c'est la graisse la plus dangereuse et c'est la graisse qui se développe le plus lorsqu'on est sédentaire.
Donc vous l'avez dit, finalement, même si on a un poids plus ou moins stable, on a peut-être perdu beaucoup de muscles et gagné de la graisse. Alors on peut s'en rendre compte si on ne rentre plus dans son pantalon, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a perdu de la masse musculaire? Je sais pas, on mesure son tour de cuisse en se disant j'ai les cuisses moins grosses. Alors, il faut utiliser une balance spéciale.
Voilà, il y a des balances spéciales qui sont très très précises, souvent dans les centres de sport de haut niveau ou à l'INSEP par exemple.
Mais celles qu'on a à la maison, parce que parfois on a ce qu'on appelle.
Non, mais Jimmy, cherchez pas, vous n'aviez pas beaucoup de muscles, donc vous n'avez pas dû en perdre beaucoup.
Faut surtout pas se faire avoir par ce type de balance. Vous voyez, un ordre d'idée, les balances qui sont très précises, qui vont exactement nous donner notre composition corporelle, c'est des balances qui vont coûter entre 7 et 12 000 euros.
Oui, donc on n'en a pas ça chez soi.
Balances
c'est pas tout à fait mon budget.
Voilà, les balances qu'on achète en supermarché à 100 ou 150 euros, en fait, ça va être un arc électrique qui va passer d'un pied à l'autre et qui va vous donner à peu près votre composition corporelle uniquement sur les jambes, en fait. Ah oui. Donc c'est totalement faux.
Mmh. Là, avec le deuxième confinement, la prise de poids a été peut-être un peu moins importante. Il paraît que les nutritionnistes ont été submergés d'appels. Hein.
Ouais, les gens se sont rendus compte que pour être en forme, bien sûr, c'est le sport, mais c'est à 50% aussi la nutrition. Donc les nutritionnistes, ouais, y a beaucoup de nutritionnistes qui ont fait des consultations par téléphone. Moi, je travaille avec une nutritionniste qui le fait, ou bien en visio.
En urgence, surtout faites en sorte que ça n'arrive pas comme la première fois.
C'est ça. Ouais. Les gens se sont dit, c'est un petit peu le syndrome comme certaines femmes qui sont enceintes des fois, se disent, bon allez, je suis enceinte, j'en profite, je prends du poids, et puis après elles se rendent compte que c'est très très dur de perdre du poids. Là, les gens, lors du premier confinement, c'était un peu ça. Ils se sont dit, bon allez, c'est pas grave, c'est 2-3 mois où on se fait plaisir. Et puis finalement, le poids avait beaucoup de mal à être perdu. Donc là, il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont appelé au bout de la première semaine en me disant, bon bah, qu'est-ce qu'on fait
cette
fois ?
Comment je bouge la vite, vite.
Faut surtout pas que ça arrive comme le précédent confinement.
On n'en parle pas souvent, mais est-ce que les enfants vont aussi souffrir de ce déconditionnement, puisqu'on se rend compte que moins on fait d'activité physique, moins on est en forme. Mais est-ce qu'un enfant de 5, 10 ans ou même 12 ans peut aussi avoir ses conséquences liées au confinement ?
Oui, bon, les enfants ont une fonte musculaire qui va être moins importante que, par exemple, des personnes âgées, logiquement. Mais oui, ils vont perdre du muscle, ils vont perdre les réflexes qu'ils avaient à pratiquer certains sports. Ils vont prendre du gras.
Ils ont eu un peu de sport à l'école cette fois, quand même.
Ils ont eu un peu de sport à l'école, mais alors, par exemple, là, j'avais vu une étude qu'avec toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place, sur 2 heures de sport, ils pratiquent même pas 1 heure maintenant.
C'est vrai.
Donc, vu les groupes,
ils
sont
divisés en plusieurs
groupes. Il y a
beaucoup de sports à l'école qui sont interdits, tous les sports
co. Ils sont divisés
en
plusieurs groupes, le temps de nettoyer, de que les groupes ne se croisent pas. C'est vraiment très compliqué pour eux. Et puis les enfants, contrairement aux adultes, nous, on arrive à faire du sport seul, à se motiver, à aller courir tout seul. Les enfants ont envie d'être en groupe. Et là, il n'y a plus du tout cet effet de groupe, donc ils ne sont plus du tout motivés.
Vincent Martin, avec les assouplissements du confinement qui ont été annoncés par Emmanuel Macron pour ce samedi, hein, pour demain déjà, on va pouvoir sortir maintenant 3 heures par jour, jusqu'à 20 km de chez soi. Est-ce que ça laisse envisager des choses un peu différentes, sportivement parlant ?
Déjà, on va pouvoir rejoindre des parcs avec des activités multisports. On va pouvoir aller courir un petit peu plus loin que le kilomètre autour de chez nous. Moi, je voyais des gens autour de chez moi qui faisaient des tours sur 3 pâtés de maison. Ils l'ont fait au début et puis après, au fur et à mesure de la semaine...
Ils ont lâché aussi. On a vu moins de joggeurs cette fois.
Ils ont lâché et là, au moins, ils vont pouvoir partir dans des parcs. Ils vont pouvoir y aller en famille, faire du sport en famille, croiser des amis, même si on va faire en sorte de garder d'être raisonnable sur
la
distanciation. Mais au moins, on va pouvoir recommencer à avoir des activités plus groupées.
Alors, j'ai pas fait de sport depuis 1998. Est-ce que avec ces 20 km, c'est le moment de me lancer samedi prochain là dans un semi-marathon?
Non, il faut y
J'aimerais
aller toujours.
Avec les appareils de réanimation. Si vous
non, il faut toujours y aller progressivement, hein, comme dans toute activité sportive. Et puis surtout, il faut pas avoir l'envie de vite retrouver le niveau qu'on avait avant le confinement. Ça, c'est le danger. Se dire qu'on courait, je ne sais pas, 10 km en 45 minutes et puis repartir tout de suite sur la même distance en recherchant le même temps, ça c'est souvent une erreur. On peut se blesser et puis moralement, c'est jamais très bon. Quoi.
Vincent Martin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, Vincent Martin. Je rappelle que vous êtes directeur sportif du Paris Country Club et c'est vous qui allez nous coacher cet après-midi. On va démarrer par le renforcement musculaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le début de cette épidémie, on peut avoir perdu de la masse musculaire. Les salles de sport sont toujours fermées. Mais vous dites qu'on peut faire des choses chez soi, sans soulever donc des charges, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire en salle, c'est-à-dire à la maison, tout c'est possible, vraiment.
Oui, bien sûr. Alors, déjà, la base du renforcement musculaire, les gens pensent que le renforcement musculaire, c'est obligatoirement des charges additionnelles.
Oui, si vous voulez des haltères et tout ça, non.
Absolument pas. La base du renforcement musculaire, c'est déjà maîtriser son propre poids de corps. Donc, il y a énormément d'exercices qu'on peut faire juste avec son poids de corps. Il faut notamment continuer à travailler le centre du corps. Très souvent, on a le centre du corps qui s'affaiblit avec une position assise. Là, vous voyez, il y a une étude qui a été faite. Les personnes de moins de 20 ans sont en moyenne actifs 30 minutes par jour seulement sur ce confinement.
Ah ouais, c'est tout.
Donc tout le reste, on est assis, on est allongé, soit on est en télétravail sur un ordinateur ou pour ses études, soit on regarde des séries. Et là, en fait, on a le centre du corps qui se ramollit.
C'est les abdominaux, c'est la sangle abdominale.
C'est les abdominaux, c'est les muscles lombaires, c'est tout ce qui va vraiment tenir notre corps et c'est tous les muscles et qui vont transmettre l'énergie du bas vers le haut et inversement. Donc ça, ces muscles-là, il faut absolument les maintenir en forme.
Comment ?
Et faire des exercices réguliers. Bah alors, le meilleur, c'est, on en avait parlé, hein, le meilleur exercice, on en avait parlé la dernière fois, c'est la traditionnelle planche, où on se met sur les coudes, sur les pointes de pied, on essaye de former une planche avec le niveau des épaules, du bassin et des pieds qui sont à peu près au même niveau, légèrement descendant vers les pieds, et ou sinon on peut se mettre sur les genoux. On fait cet exercice sur des temps de 20-30 secondes.
J'ai
pour
peur,
commencer.
J'ai cru qu'il allait dire 20-30 minutes.
Non, 20-30 secondes. On prend pour commencer une minute de récupération entre chaque série. Puis progressivement, on va se rendre compte qu'on a vraiment la sensation d'avoir le corps qui est de plus en plus serré sur chaque entraînement.
C'est ça
sur
l'objectif recherché.
Voilà,
ouais.
C'est ça l'objectif. C'est vraiment que le corps ait un corset de plus en plus solide. Et ce gainage qui va arriver progressivement va nous permettre de rester solide pour les sports futurs, pour la vie de tous les jours, et surtout va éviter énormément de blessures.
Si on veut essayer de faire d'autres exercices, donc on commence avec le gainage pour renforcer du coup les muscles un peu profonds, on n'aura peut-être pas de résultats extraordinaires, mais on sera plus tonique. On peut faire quoi ? Des squats à la maison ? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça ? Ou des fentes ?
Bien sûr, alors on peut faire des squats, on peut faire des fentes.
Alors les squats, décrivez-nous juste pour ceux qui ne savent pas.
Les squats, ouais. C'est exactement comme si vous imaginiez une chaise derrière vous, vous allez vous asseoir et au moment où vous allez toucher la chaise, vous relevez.
C'est plus difficile, on ne s'assoit pas.
Voilà, on ne s'assoit pas. Ouais. Les fentes, on va mettre un pied loin derrière.
Point on écarte d'ailleurs ?
Voilà,
parce
on écarte un maximum. Alors surtout, il ne faut pas hésiter à écarter. Souvent, on fait l'erreur de ne pas assez écarter les pieds. On écarte vraiment les pieds. Il ne faut pas avoir le genou devant qui dépasse la pointe de pied lorsqu'on descend.
J'essaye de faire la fente. Hein,
oui,
vous la voyez pas, je suis ridicule, mais c'est tant mieux.
Heureusement que vous n'avez pas la visio, parce que vraiment, heureusement que c'est que la radio. Hein.
Non, mais relevez-vous, Mélanie,
allez-y. Lorsque l'on descend, on ramène le genou de la jambe arrière le plus bas possible vers le sol. Voilà. Et on enchaîne on garde le dos bien droit, surtout sur tous les exercices que l'on fait, que ce soit les squats, les pompes, les fentes, on essaye toujours de rentrer le nombril et de gainer le centre du corps un maximum.
Donc mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça seul ? J'avais téléchargé une application pour faire du sport, je m'y étais mis sérieusement, et au bout de 3 semaines, je me suis fait une déchirure musculaire.
Je vous ai suivi et je m'en suis servi 2 fois.
Exactement. et du coup, on veut y aller trop fort, trop vite, et seul à la maison, c'est difficile quand on n'est pas accompagné.
Alors, maintenant, les applications sont bien faites. Il y a toujours des niveaux dans les applications. L'erreur que les gens font souvent, c'est que...
Vous avez mis l'option super-héros,
j'avais mis
pas
le
bon.
Niveau Zlatan Ibrahimovic.
Voilà,
c'est pour ça.
C'est peut-être ça. C'est peut-être ça.
Alors,
quelqu'un qui va courir... Ça, c'est méchant pour lui.
Ah là là, il faut toujours qu'il en case une comme ça. Bon,
quelqu'un qui va courir 2-3 fois par semaine va très rapidement, des fois, se déclarer comme étant expert. Le niveau va être... Il vaut mieux démarrer avec
un
niveau trop bas.
Moi, j'avais mis niveau nul, mais j'ai arrêté quand même. Mais c'est pas grave.
Il vaut mieux démarrer avec le niveau le plus bas et puis augmenter progressivement plutôt que de faire l'inverse.
Ah bon, je vais pas le cacher, j'en ai déjà parlé sur cette antenne. Hein. Les auditeurs le savent, j'ai eu la Covid il y a quelques semaines. J'ai encore des difficultés respiratoires. J'ai essayé de me remettre à courir, par exemple. C'est un peu difficile. Ça veut dire quoi ? Il faut que juste je marche pendant combien de temps ? Ça va revenir, la respiration ?
Ça va revenir.
J'ai pas de problème particulier.
Ce qui est... faut bien faire...
Bien sûr, le check-up médecin a été fait.
Check-up pour voir si on n'a pas de lésions importantes. Mais déjà, lorsqu'on reprend le sport, comme je vous l'ai dit, il faut surtout pas se fier à ce qu'on faisait avant. On en avait parlé, moi aussi j'ai eu le Covid et lorsque ça m'est arrivé, j'ai fait l'erreur au bout d'une semaine parce que je me sentais bien.
Puis vous êtes en bonne forme physique, je sais pas si c'est pour ceux qui vous voient, ça n'a rien à voir avec Jimmy Mohamed. Hein.
Et donc je suis vite reparti à faire une séance de course à pied, à faire du TRX et là tout de suite j'ai vu que la condition n'était plus la même.
Essoufflé,
très fatigué après, le cœur qui montait mais qui avait beaucoup de mal à redescendre.
Et ça, qu'est-ce que c'est le conseil justement pour éviter que le cœur parte en balle trop vite, pour surveiller ça ?
Alors il faut acheter un cardiofréquencemètre, les premiers prix ça doit être une vingtaine d'euros, donc vraiment il ne faut pas hésiter. Ça va nous servir aussi par la suite. Donc, il faut prendre un cardiofréquencemètre. Il faut démarrer vraiment tranquillement. Au début, une promenade en marchant, ce que j'avais fait. J'étais parti marcher avec ma fille. Et puis après, on trottine ou on fait de la marche rapide ou on va faire de la marche dans une côte. Et toujours contrôler son rythme cardiaque et faire en sorte, dans un premier temps, de travailler en endurance fondamentale, c'est-à-dire que notre cœur ne dépasse pas 70% de notre fréquence cardiaque maximale.
Comment on la calcule, ce 70% de sa fréquence cardiaque maximale ? Alors, je crois qu'il faut l'âge, va en prendre moins. Hein, c'est...
La théorie,
moi, j'ai 37 ans, donc comment on calcule ?
La théorie, c'est 220 moins l'âge.
D'accord.
Et ensuite, pour connaître les 70% de notre fréquence max, qui va être notre endurance fondamentale, on comprend ce max et on multiplie par 0,7.
Donc ça fait 128 pour vous, Mélanie. 128
voilà, quand j'ai commencé le sport, j'étais à 170, donc
voilà,
ça ne va pas du tout.
C'est l'erreur, ouais, c'est exactement ça. Il faut être à l'aise et il ne faut pas en fait que l'effort soit traumatisant pour le corps et pour l'esprit. C'est souvent l'erreur des gens qui se mettent à courir, par exemple.
Bon, on y va doucement, avec prudence. C'est très bien, Vincent, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Vincent Martin. Je rappelle que vous êtes directeur sportif du Paris Country Club. Alors à présent, vous allez tout nous dire sur un sport à la mode, un sport tendance, enfin une façon de pratiquer le sport qui est tendance. Ça s'appelle le HIIT, H-I-T pour ceux qui ne connaissent pas. On le voit d'ailleurs hein, dans les plannings de salles de sport, il y a HIIT machin, HIIT truc, enfin il y a des HIIT avec plein d'autres mots à côté. C'est quoi ? Bon, en ce moment c'est fermé les salles, mais le HIIT ça veut dire quoi ?
Alors le HIIT, c'est haute intensité en intervalle training.
Bon ben au moins on comprend mieux là.
Voilà. Alors haute intensité, des fois ça fait un petit peu peur.
Mmh. Mais on se dit fait, c'est un truc pour les barjots ça.
Voilà, c'est de la haute intensité mais adaptée à tous. C'est-à-dire qu'il y a des techniques d'entraînement où on peut avoir une dame, un monsieur de 70-75 ans à côté d'un jeune de 15-16 ans ou 20 ans. Peu importe, la haute intensité en fait est adaptée à tous. Donc c'est une méthode d'entraînement où, dans l'idée, il faut penser à un interrupteur. Soit on allume l'intensité, soit on l'éteint. Ce qui est important dans cette technique d'entraînement, c'est de faire monter le cœur très haut et de le faire redescendre très bas.
Mmh.
Souvent, quand on démarre un sport, on n'a pas trop de mal à faire monter le cœur.
Non, ça
des
va.
Fois, il monte même trop vite. Le plus compliqué, souvent, c'est de le faire redescendre. Donc, dans ce type d'entraînement, l'important, c'est d'avoir un écart important entre l'intensité et la récupération. Très souvent, par exemple, quand les gens se mettent à courir, ils courent trop vite, bien au-dessus de l'endurance fondamentale dont on vient de parler.
Moi, je montais à 180 là, dans l'info.
Voilà. Et finalement, il n'y a jamais de récupération.
J'ai récupéré, mais j'ai mis du temps.
Donc, c'est exactement comme si vous alliez prendre votre voiture, vous roulez à 80 km/h et vous restez en seconde.
Ouais.
À un moment, le moteur va surchauffer, ça va être plus néfaste pour vous qu'autre chose. Alors qu'en fait, avec ces méthodes-là, on va avoir des moments d'intensité où vous montez par exemple à 180 et des moments où on va chercher à faire redescendre le cœur un maximum.
Et qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça ? Est-ce que c'est, en quoi c'est plus efficace qu'un exercice d'endurance ? Puisque dans l'esprit des gens, il faut courir pendant une heure régulièrement très longtemps pour avoir un
brûler
effet
des graisses
sur,
et tout ça. Quoi, ouais.
Alors, si vous voulez courir pendant une heure, il faut justement être en endurance fondamentale et ne pas aller au-delà. Là, on travaille son endurance. Si vous cherchez à perdre du gras et à gagner du muscle,
voilà, c'est ça.
Et ben voilà, ça c'est du HIIT. Donc ça, c'est des séances d'entraînement qui peuvent faire 10 minutes pour les débutants.
Ah oui, même, je disais moins de 30, mais c'est même 10.
Voilà,
quoi,
de 10 et 30 minutes pour les plus confirmés. Par exemple, en CrossFit, les WOD, donc les Work of the Day, c'est-à-dire que les entraînements de CrossFit, même pour les gens confirmés, ne dépassent jamais 30 minutes. Donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Donc on va gagner en masse musculaire, on va perdre en gras, parce qu'avec ce type d'entraînement, on va chambouler le métabolisme, notre métabolisme de base, c'est-à-dire que les calories que l'on perd au repos, vont être chamboulées pendant l'entraînement.
Donc les 30 minutes-là, on va brûler des calories,
voilà,
ça
on
c'est
va perdre,
sûr.
Pendant 30 minutes, on perd à peu près 500-600 calories. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que les 12 heures suivantes, on va continuer à brûler des calories et on va perdre l'équivalent de ce qu'on a perdu pendant l'entraînement.
Ce que ne fait pas un entraînement classique sans HIIT. Quoi,
voilà,
hein,
vous
ça.
Faites de l'endurance fondamentale, une heure après, vous perdez quasiment plus rien.
D'accord. Alors que là, pendant 12 heures, on perd encore.
Donc en fait, voilà, sur un entraînement de 30 minutes, vous perdez 1200 calories.
On morfle 30 minutes, mais après, ça vaut le coup, quoi.
Alors malheureusement, les salles de sport sont encore fermées pour un petit moment. Est-ce qu'on peut faire ça tout seul ? Est-ce qu'on peut, par exemple, sortir de la maison, faire 30 minutes de course en faisant 5 minutes à la cool, 2 minutes où on se donne un peu plus à fond ? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses ou avec un vélo d'appartement, ça peut marcher ?
Alors, il n'y a même pas besoin. On peut, bien sûr, le faire tout seul ou avec un ami. On n'a pas besoin d'aller dans une salle. Mais surtout, on n'a pas besoin d'aller sur des intensités, comme vous venez de dire, jusqu'à 2 minutes. Il y a une méthode qui marche très bien qui s'appelle la méthode Tabata, qui va être 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération.
Ah, j'aime bien ça, 20 secondes, c'est pas long. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est dans notre corps, on a deux sortes de fibres musculaires. Les fibres 1 et les fibres 2. Les fibres 1, c'est des fibres endurantes qui vont être très fines, qui ne prennent pas beaucoup de place.
C'est des fibres dans le muscle, hein, c'est ça.
Voilà, c'est une partie de nos muscles qui sont fibres 1. Donc ça, ces fibres-là, on va les développer avec les sports d'endurance, notamment lorsqu'on va courir une heure et demie. Ça, c'est des fibres qui sont, comme je vous l'ai dit, très petites. C'est les fibres des marathoniens.
D'accord.
Pourquoi ils sont aussi...
On n'en a pas, Jimmy, je ne cherche pas.
Ensuite, on a les fibres de type 2, qui, elles, vont être des fibres puissantes, qu'on va utiliser sur des efforts courts et qui vont prendre beaucoup plus de place. Ça va être les fibres des personnes qui font des sports de force ou les bodybuilders, par exemple.
Mais j'en ai pas non plus. Alors, on a quoi, nous ? Il n'y a pas les fibres 3.
Alors, il y a des sportifs.
Je les cherche,
ont,
j'ai pas vu les 1, j'ai pas vu les 2, mais alors.
Il y a des sportifs qui ont les deux fibres. On a tous les deux fibres plus ou moins développées, mais il y a des sportifs qui ont les deux fibres développées quasiment de manière égale, comme par exemple les rugbyman, les boxeurs. Ouais. Donc voilà, on peut être, contrairement à beaucoup de mythes, on peut être endurant et fort. Ouais. Donc sur ce type d'entraînement et sur ces efforts très courts, on va travailler en grande partie les fibres 2. Les fibres 1 vont être sollicitées, mais les fibres 2 vont se développer. Donc en fait, on va faire un sport d'endurance, mais comme on va avoir des efforts courts, on va se muscler lors de ces phases d'intensité.
Donc il faut tenir. Donc vous avez dit 20 secondes de sport à haute intensité, repos 10 secondes pendant 30 minutes.
Et on peut faire ça. Alors, on a toujours 5...
Pour démarrer
5,
10, je pense
voilà,
que ça
on
suffit.
On a toujours 5, voire 10 minutes d'échauffement. Voilà, polyarticulaire, on va vraiment prendre les mouvements qu'on va faire par la suite, les décomposer pour vraiment s'échauffer les muscles, les articulations,
et
les tendons.
Combien de temps,
on démarre
parce que
pas.
Souvent on est un peu pressé, on a envie d'avoir des résultats rapidement. Au bout de combien de temps on peut voir les bénéfices à la fois sur notre état et puis aussi un peu sur l'apparence extérieure?
Alors ça va très vite. Hein. Si on pratique 3 fois par semaine,
du
par
8,
exemple,
ouais.
du 8, on arrive à des résultats qui sont vraiment satisfaisants au bout de 2-3 mois.
Hein. Ah oui,
donc
ça va
vraiment vite. Et surtout pour le moral, c'est un type d'effort où on va sécréter beaucoup d'endorphines. Vous savez, c'est le bien-être qu'on a une fois qu'on a été courir. Elles arrivent encore plus vite que sur de la course à pied et sur des entraînements plus longs.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un petit exemple de séance de HIIT que vous auriez préparé pour nous, je crois, avec 6 petits exercices qui font une bonne séance de HIIT pour se lancer à la maison? Je vous laisse, on vous écoute, expliquez-nous ce qu'on peut faire.
Alors,
dès demain.
Je vous ai préparé un entraînement très simple que tout le monde peut faire, où on va varier justement des phases plus de renforcement musculaire et d'autres un peu plus cardio. Parce que dans les entraînements de HIIT, on a des fois des axes qui vont être plus renfo, plus cardio. Si par exemple vous allez dans une box de CrossFit, à chaque fois il y a un ADN qui est un peu plus poussé, soit vers l'haltéro par exemple, ou soit vers le cardio. Donc là, on va faire la méthode Tabata, donc c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Avant de faire cet entraînement, il faut reprendre tous les exercices que je vais vous donner et les décomposer tranquillement, s'échauffer pendant au moins 5-10 minutes.
D'accord.
Donc cet entraînement, on va l'enchaîner pendant 10 minutes pour les confirmer, 20 minutes pour les gens qui ont une pratique assez régulière, et puis on peut aller jusqu'à 30 pour les confirmer. Donc on va démarrer sur 20 secondes de squat.
Donc on a parlé tout à l'heure. On fait semblant de s'asseoir.
La petite chaise. Ensuite, pendant 20 secondes, sur place, on va lever les genoux. Donc on court sur place en levant les genoux au moins à hauteur de bassin. 10 secondes de récupération. Ensuite, pendant 20 secondes à son rythme, on va faire des pompes, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Donc là où c'est adapté à tout le monde, on peut le faire avec des gens de tout niveau, puisque ça dure 20 secondes, donc chacun son rythme. 10 secondes de récup. Ensuite, on court sur place, on ramène les talons vers les fessiers. 10 secondes de récup.
Très bien.
Ensuite, des dips. Donc des dips, on se met sur une chaise. On met les fesses
sur la chaise, okay.
dans le vide.
Très bien.
On fléchit les bras. Derrière,
je fais bien,
et
là.
On remonte.
Ah non, je fais pas bien.
Voilà, il faut avoir les fesses dans le vide.
Ah, ouais, d'accord.
Ah, attention, vous allez glisser, Mélanie.
Voilà.
Attention.
Je vais arrêter tout de suite.
Et là, on va travailler l'arrière des bras.
Et dernier exercice, le
6e. Et le dernier exercice, ça va être des jumping jacks. Donc, on est debout, on écarte les pieds. C'est le mouvement un peu des militaires. On écarte les pieds, en même temps, on ramène les bras au-dessus de la tête.
D'accord, ça, on voit tout à fait.
20 secondes, 10 secondes de récup.
Bon, bah écoutez, on a notre petite séance pour demain, Jimmy. Je crois qu'on va se lancer. Merci beaucoup, Vincent Martin, pour toutes ces explications et pour votre dynamisme qui nous a bien motivés. On va se remettre évidemment en mouvement. Merci encore, Vincent.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, il est temps de vous, de nous faire du bien et de prendre soin de notre apparence avec Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, Benjamin, vous vouliez nous donner tous vos conseils pour enfin se débarrasser des cicatrices d'acné.
Oui, alors c'est pas une fatalité, mais c'est vrai que bien souvent, les boutons d'acné vont laisser des traces sur la peau des marques qui vont persister à vie. Alors la plupart du temps sur le visage, mais ça peut aussi être sur le torse ou les épaules. Et il existe différents types de cicatrices d'acné, comme des creux, des cratères ou bien des taches. Et ce n'est pas parce qu'on a eu beaucoup d'acné que l'on aura forcément un tas de cicatrices, comme nous l'explique la dermatologue Marie Jourdan.
Il y a des gens qui ont une petite acné insidieuse, où les trois petits boutons qu'ils vont avoir chaque mois vont laisser des sacrés trous, et d'autres qui vont avoir des pustules incroyables sur tout le visage, ne pas avoir de cicatrices. Si on veut vraiment les culpabiliser, c'est effectivement l'excoriation, le fait d'aller percer, gratter, arracher les boutons. Là, ils vont imprimer presque la marque de l'ongle, hein, où on a des cicatrices plus d'excoriation que des cicatrices d'acné en elles-mêmes. La cicatrice d'acné aurait été plus petite, mais le fait qu'ils aient manipulé les boutons, ça va faire des cicatrices plus importantes et plus profondes.
Benjamin, alors qu'est-ce qui existe pour retrouver une jolie peau sans cicatrices ?
Alors, vous avez le fond de teint, les correcteurs et les poudres, mais ça... ça va juste uniquement camoufler temporairement, exactement. On voit aussi sur le marché des crèmes cicatrisantes. Alors, ça ne changera rien car les cosmétiques ne rentrent pas dans le derme, dans la peau. Et il existe également des lampes à LED. Alors, c'est effectivement une bonne chose pour diminuer l'inflammation au moment de votre acné, mais peu d'effet sur vos cicatrices.
Alors, Benjamin, qu'est-ce qui fonctionne ?
Alors, pour les cicatrices très légères, vous pouvez opter pour des peeling, c'est une brûlure chimique de l'épiderme qui va forcer la peau à se renouveler. Et puis en médecine esthétique, vous pouvez aussi faire des injections d'acide hyaluronique pour combler les creux des cicatrices. Le seul problème, c'est que ça ne dure pas. Il faut refaire une piqûre tous les 6 mois, 1 an. Enfin, le plus efficace, c'est d'avoir recours à du laser. C'est le choix qu'a fait Anatole, 25 ans. Il a eu une acné importante durant son adolescence et je l'ai suivi pendant sa 3e séance de laser reportage.
Donc là, je vais vous mettre la crème anesthésiante. C'est une première séance ?
Troisième.
Donc du coup, là, je vais vous mettre du cellophane. C'est ce que le docteur Jourdan vient de vous voir.
Monsieur Bécurie, vous me suivez ? Je vous laisse vous déshabiller, on va regarder. Je vais enlever la crème anesthésiante. Donc là, on est à un mois de la 2e séance. Est-ce que vous avez l'impression que vous commencez à voir du mieux sur les cicatrices ?
Oui, c'est plus lisse au toucher.
Alors, le laser est prêt. Je vais, comme la dernière fois, vous ajouter un petit vent frais en même temps que le laser. C'est ce qui fait du bruit. Ça va permettre d'apaiser un petit peu la peau pendant le traitement. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais c'est de toute façon un laser qui ne pose pas de problème. Au niveau des yeux, je n'ai pas besoin de vous mettre de coque particulière. Et on va poser le laser sur la peau et faire un passage tranquillement sur toute la zone de traitement. Et on voit au fur et à mesure que la peau devient rouge, un peu, tout simplement, un peu comme un coup de soleil. Comment ça va, la douleur ?
Rien, je ne sens rien du tout.
Et la docteure, le laser agit comment exactement sur les cicatrices ?
Alors là, on est sur un laser qu'on peut qualifier de laser de remodelage. C'est un laser qui, finalement, quand on le passe sur la peau, va créer de multitudes impacts, en fait, des blessures assez profondes dans la peau. La peau va donc se sentir blessée et va rentrer dans un processus de réparation, de cicatrisation. C'est ce qui fait que les cicatrices deviennent beaucoup plus discrètes à l'œil. Et voilà, hop, je vais éteindre le laser. J'ai plus qu'à vous mettre un peu de crème cicatrisante et apaisante. Et puis vous continuez avec une crème cicatrisante comme ça, matin et soir, pendant une petite semaine.
Très bien, merci beaucoup docteur.
Voilà, et en général, 3 séances sont nécessaires pour se débarrasser de ces cicatrices. Et le prix, c'est compris entre 300 et 500 euros la séance.
Merci beaucoup Benjamin pour cet éclairage. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de la semaine. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec une question d'Audrey que le docteur Jimmy Mohamed va se faire un plaisir de nous lire.
Avec plaisir. Alors, mon boulanger me plaît énormément, mais je n'ose pas faire le premier pas. Je ne sais pas comment l'aborder. Lui n'a pas l'air de vouloir faire le premier pas non plus. Comment décoincer la situation ? Bon, Catherine, qu'il soit boulanger, charcutier ou fromager...
Ça ne change rien au problème.
Ça change rien au problème. Mais quitte à y aller, pourquoi pas se lancer ? Pourquoi cette crainte du râteau ?
Pourquoi qu'il fasse le premier pas en plus ? Ouais.
Bah, en fait, c'est toujours la difficulté. Je pense effectivement, la question, là, ce n'est pas la question du métier. Enfin, en tout cas, du cadre où il est rencontré. C'est la question de quelqu'un qui me plaît, qui ne fait pas le premier pas alors que j'ai le sentiment que j'ai l'air de lui plaire. Et moi, je ne me sens pas capable de faire le premier pas. On en revient toujours à cette question où ce sont les hommes qui doivent proposer, les femmes qui doivent disposer, réfléchir, etc.
Et c'est du pas coup, évident de faire le premier pas dans la boulangerie avec des clients derrière aussi, ça peut être un peu gênant.
Alors, c'est pas, oui, effectivement, maintenant, je veux dire, il a un début, il a une fin, il rentre dans sa boutique à un moment ou à une autre. De toute façon, ça pose la question de son appétence personnelle à dire, vous me plaisez énormément. Dommage que vous soyez derrière votre comptoir ou que votre pain est bon, mais partage.
Attends, si on partage. Boulanger, je n'ai aucune arrière-pensée. Le pain est bon, les hommes mettent du temps avant de comprendre les messages.
Oui, alors peut-être qu'il faut lui passer un petit mot. Ou alors il faut être inventif, je ne sais pas.
Un petit mot avec le billet.
Ou être plus frontal, est-ce que laisser un numéro de téléphone, par exemple, lui donner et s'en aller, pas une carte de visite, mais Parce que parfois, on a l'impression que c'est dur d'engager une relation, une discussion.
Avec un inconnu, c'est pas évident.
Et encore plus maintenant, avec le masque, avec la distance.
De toute façon, c'est difficile. Et c'est difficile, encore une fois, pour les femmes, puisque pendant une éternité, les femmes n'étaient pas celles qui exprimaient quoi que ce soit de leur propre désir. Il était plus facile pour elles, plus protégé pour elles, de répondre aux désirs qu'on évoquait en face d'elle. Donc évidemment, cet homme, il va quand même pas se mettre à draguer sa cliente. Il s'expose à une situation un peu délicate. Il est coincé par son propre métier, alors il pourrait peut-être...
C'est pas trop interdit non plus. Hein.
Oui, la déontologie des boulangers,
c'est
à mon avis,
permet... C'est pas la même
permet...
que celle des médecins.
Oui, non, mais je pense qu'ils sont un peu plus souples.
Non, à moins qu'elle ne soit toute seule dans la boulangerie.
Oui, dans ce cas-là, c'est du harcèlement. Voilà. Mais c'est encore autre chose.
Non, mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est que la situation, c'est surtout que c'est une situation où chacun a une position... et qu'il faut bouger les positions de l'un qui est le boulanger et l'autre qui est la cliente et que finalement dans ce truc c'est se dire qu'on est un homme et une femme et qu'on peut être en désir l'un de l'autre. C'est à un moment donné, elle peut pas rester à attendre et aller acheter toute la boulangerie.
Il faut qu'elle achète du pain tous les jours alors qu'elle aime pas ça.
Si elle achète 4 baguettes par jour, ça va finir par coûter cher. Mais est-ce qu'elle pourrait pas utiliser des moyens détournés comme on a l'avènement des réseaux sociaux? Googliser son nom et finalement peut-être trouver.
Vous voyez, vous êtes plein d'inventivité et c'est bien de ça dont il s'agit pour Audrey. Si elle veut le contact avec lui, bien évidemment, vous avez tout à fait raison. C'est pouvoir utiliser les réseaux, c'est pouvoir le croiser à un moment où il va. Elle sait que
ça commence tôt les boulangers,
boutique.
Donc peut-être qu'il commence mais
à la fin. À la fin, par exemple, peu importe. Mais en tout cas, je crois que sa difficulté, c'est surtout que il ne fait pas le premier pas, mais lui ne va
peut-être
pas
qu'il l'aime pas trop non plus parce qu'elle dit il fait pas le premier pas mais peut-être qu'elle lui plaît pas.
Alors
pas
peut-être elle s'invente une réciprocité, peut-être vous avez raison, mais sans doute qu'il est le moins bien placé dans sa position de travail mm-hmm. pour googliser sa cliente dont il ne connaît très certainement pas le nom à moins qu'elle ait fait des commandes chez lui. Donc c'est quand même elle qui est un peu plus à ouvrir la possibilité d'être au moins accessible. Si tant est qu'elle est vraiment en vide, mais à moins qu'elle ait peur que d'une déconvenue.
Oui, et auquel parce cas, que elle c'est attend. Ça la crainte majeure, c'est de se prendre un râteau. Est-ce que c'est grave de se prendre un râteau du boulanger non. Parce qu'après, ce moment, on ne peut plus acheter la baguette.
Boulangerie.
Non, mais attendez, vous rigolez, moi j'ai une boulangerie à côté de chez moi. Si je m'embrouille avec mon boulanger,
oui,
c'est fini.
Ah oui, vous ne voulez pas, parce que vous aimez vraiment ce pain.
Je l'aime vraiment, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y a une crainte parce que c'est quelqu'un qu'on peut revoir régulièrement?
Mais vous savez, c'est cette crainte, on l'a tous, on voudrait
avec
ne jamais.
Un collègue,
mais voilà, c'est un collègue, c'est avec un copain quand on est en lycéen. Et on ne va pas aller toujours dans un autre quartier, dans un autre
ville.
Groupe, dans une... parce qu'on a peur, de se prendre un râteau. Il y a vraiment que le râteau matériel qui fait mal. Hein, parce ouais. que,
donc vous dites de foncer,
tenter sa chance, bien sûr. On n'en meurt pas, au contraire, et avec délicatesse, et avec sourire, et avec humilité. C'est encore comme ça qu'on est la plus charmante. Et si ça ne marche pas, ben ça sera gentiment... remercier.
Et puis il aura pu acheter son pain chez lui s'il
changera de boulangerie,
hein.
C'est pas très grave.
Exactement.
Merci beaucoup.
Maintenant, on peut y retourner en disant bonjour, c'est pas un problème.
Non, je n'achète plus de baguette chez vous.
Non, mais c'est pas ça, c'est la baguette. C'est pour
on
le
fait un appel à la boycott de la boulangerie et nous relayerons l'information sur Europe 1.
Ça voudrait
attention.
Dire que la baguette est un symbole
oui.
et donc non, ça
se fait pas. Oui, mais nous chouchoutons les auditeurs d'Europe 1. Donc qu'elle nous appelle si jamais Audrey n'a pas de retour au boulanger. Nous enverrons un envoyé spécial.
Ça s'appelle du harcèlement, ça.
Merci Catherine, merci pour tous vos précieux conseils comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Bonjour. Aujourd'hui, je prends l'accent belge.
Oui, on prend l'accent belge parce que c'est une spéciale Belgique avec trois personnages historiques qui sont belges.
Ils sont totalement belges. Le premier, Stéphane, c'est l'inventeur du...
Adolphe Saxe, qui a inventé le saxophone. Oui. Sœur Emmanuelle, qui était belge aussi, on ne le sais pas. Et puis, alors, on a un invité dont vous ferez
prestigieux.
Le portrait aussi.
Et puis, effectivement, oui. Un des Belges les plus célèbres actuellement, Philippe Geluck, l'inventeur du chat, dont un nouvel album sort.
Vous allez faire l'émission avec l'accent belge tout le long, Mathieu?
Non, ça, c'est juste pour vous.
Non, c'est
juste pour votre plaisir
personnel.
Merci
beaucoup, j'adore ces petits plaisirs. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne émission et vous, restez sur Europe 1.